Et pour la suite, je redonne la parole à Pierre Royan.
La philosophie des Lumières ne resta pas cantonnée au salon de la haute société. Elle se répandit dans la population. Les colporteurs faisaient circuler sous le manteau les ouvrages des philosophes. Et parmi les élus du tiers-état de la Révolution française, plusieurs furent éclairés par les idées des matérialistes. Lorsque la Révolution éclata, la lutte contre la noblesse et le roi n'eut pas besoin de prétextes religieux. Et le pouvoir issu de la première irruption populaire de l'été 1789 imposa une constitution civile au clergé. Les prêtres, du moindre curé à l'archevêque, devaient prêter serment sur la constitution. Le pape de Rome appela à s'y opposer. Et sauf une partie du bas clergé, les quelques héritiers spirituels de Jean Mélier, l'Église, résolument du côté de la monarchie, fut largement réfractaire au serment. La révolution s'intensifia à partir de l'été 1792, marquée par le soulèvement des sans-culottes parisiens qui fit chuter la royauté et instaura la République. La guerre révolutionnaire, devenant de plus en plus âpre, le pouvoir, s'il voulait vaincre, n'avait pas d'autre choix que de s'appuyer sur la mobilisation la plus large du peuple en lui concédant des mesures radicales. Ce fut alors, en 1793, la période dite de la terreur, où les sans-culottes parisiens envahissaient régulièrement l'Assemblée pour porter des pétitions ou dénoncer le manque de fermeté de la République à l'égard des profiteurs. Ce fut la période où le petit peuple de Paris se retrouvait plusieurs fois par semaine dans les assemblées locales, les assemblées de section, pour débattre et prendre des décisions. C'est aussi dans cette période qu'eut lieu la déchristianisation. Dans l'ambiance surchauffée de la guerre civile, les initiatives de déchristianisation lancées par l'aile gauche des révolutionnaires trouvèrent immédiatement un écho dans le peuple. Le Conseil général de la Commune à Paris arrêta que toutes les églises et tous les temples de toutes les religions et de tout culte seraient sur le champ fermés. Et sous cette pression, l'Assemblée, la Convention, décréta le 16 novembre 1793 que tous les bâtiments qui servaient au culte et au logement des ministres devaient servir d'asile aux pauvres et d'établissement pour l'instruction publique. Les pamphlets contre l'Église lancés de Paris se propagèrent partout en France. Ils étaient lus à voix haute et réimprimés dans les villes de province et les campagnes. Les religieux furent écartés des églises, qu'on transforma en temple de la raison. On peut être surpris de la facilité avec laquelle les croyances religieuses semblaient s'évaporer. Mais une haine s'était accumulée contre l'Église parasitaire et ouvertement ennemie de la Révolution. Et puis surtout, la Révolution avait mis à l'ordre du jour bien autre chose que les spéculations religieuses. Il s'agissait de changer les choses sur le champ. Dans les assemblées de section, dans les insurrections, le petit peuple sentait qu'il avait l'occasion de maîtriser son destin. Cela fit énormément pour écarter les préjugés et les croyances. Mais Robespierre chercha à brider cet élan populaire qui lui échappait. Il utilisa tout son poids et déclara, à propos des déchristianisateurs, je le cite, « De quel droit viendrait-il troubler la liberté des cultes au nom de la liberté et attaquer le fanatisme par un fanatisme nouveau ? La Convention veut maintenir la liberté des cultes qu'elle a proclamée. Elle ne permettra pas qu'on persécute les ministres paisibles du culte. » Robespierre s'empressa de mettre sur pied une nouvelle religion pour remplacer l'ancienne. Ce fut le culte de l'être suprême qu'il préférait à celui de la raison. En faisant cela, Robespierre étouffait l'énergie révolutionnaire des sans-culottes et des paysans. Et par la même occasion, il sciait la branche sur laquelle il reposait. Toute la période de mobilisation populaire que représente la terreur de 1793 avait effrayé la bourgeoisie. Elle avait eu besoin des masses pour écraser la noblesse et résister au moment de la guerre révolutionnaire. Mais la victoire assurée, elle souhaitait avant tout une situation plus contrôlée et les masses soumises. Napoléon, général de la Révolution, fut son homme. En même temps qu'il imposait sa dictature militaire, il fit revenir l'Église catholique, signa le concordat avec le pape et rétribua de nouveau les prêtres avec les deniers publics. Les philosophes des Lumières et la Révolution française avaient démystifié la religion. Alors Napoléon l'a remis en selle en déclarant, je le cite, « L'inégalité des fortunes ne peut exister sans religion. Quand un homme meurt de faim à côté d'un autre qui regorge, il lui est impossible d'accepter cette différence s'il n'y a pas une autorité qui lui dise « Dieu le veut ainsi ». Le matérialisme des Lumières avait été une arme utilisée par la bourgeoisie contre la noblesse. Mais pour exercer le pouvoir, ces théories ne lui étaient pas nécessaires. Comprendre la nature, c'était une chose, mais pousser le matérialisme plus loin, pour comprendre les sociétés, leur histoire, les ressorts de leur évolution, ça la bourgeoisie n'en voulait pas. Alors, ceux qui relevèrent le drapeau du matérialisme, ce furent ceux qui s'opposèrent au nouveau pouvoir, les premiers socialistes. Ces premiers socialistes, français et anglais, du tout début du XIXe siècle, dont les noms les plus connus sont Saint-Simon, Fourier et Owen, se revendiquaient des matérialistes des Lumières. Ils transposèrent les attaques que ces derniers avaient portées contre la société de l'Ancien Régime en attaques contre la société bourgeoise naissante. Ils dénoncèrent la bourgeoisie aussi vigoureusement que les plus radicaux de leurs ancêtres avaient dénoncé la noblesse. Comme, selon eux, l'organisation sociale la meilleure devait naître de l'application de principes rationnels, ils se lancèrent dans la conception de plans de société idéale. D'ailleurs, allant jusqu'au bout de leurs idées, ils créèrent des micro-sociétés qui devaient servir d'exemple à l'humanité. Ces premiers socialistes n'étaient pas des penseurs de salon. Ils tentèrent réellement d'aider à ce que les choses changent. Mais c'était les limites de leur compréhension de l'évolution des sociétés qui les rendaient impuissants. Au XVIIIe siècle, le matérialisme avait triomphé des conceptions religieuses et réussi à imposer une conception rationnelle et scientifique de la nature. Mais en ce qui concerne la compréhension des sociétés, de leur histoire, le matérialisme semblait faire du surplace. Pour faire un pas de plus, il fallait franchir une étape radicale. Pour comprendre l'évolution des sociétés, il ne fallait pas s'en tenir à une critique d'une société donnée, à un instant donné, et faire la liste de ce qui allait et de ce qui n'allait pas. Il fallait un raisonnement qui englobe l'évolution elle-même. Ce mode de raisonnement est venu d'un philosophe allemand, Hegel, qui étudiait les événements, les raisonnements, toutes choses dans leur développement. Hegel remit au goût du jour un mode de pensée que l'Antiquité avait découvert, mais que le matérialisme avait délaissé, la dialectique. Une formule de Hegel introduisait sa philosophie de l'histoire. Ce qui est rationnel est réel, et ce qui est réel est rationnel. Cette phrase abstraite signifiait que toutes les sociétés qui s'étaient succédées au fil de l'histoire de l'humanité étaient rationnelles, c'est-à-dire qu'elles avaient leur raison d'être, y compris celles qui, de loin, pouvaient sembler aberrantes. Et comme des sociétés totalement contradictoires s'étaient succédées, cela ne pouvait avoir de sens que si le raisonnable, ce qui est conforme à la raison, était en constante évolution. Hegel avait été fasciné par la Révolution française, dont il était contemporain, et qu'il décrivait comme un magnifique lever de soleil. Hegel concevait que si la monarchie française avait été rationnelle durant toute une période historique, la Révolution de 1789 avait montré que la société devait passer à autre chose. Selon lui, l'histoire de l'humanité n'était pas un enchevêtrement chaotique de violences incompréhensibles et condamnables, mais un processus qu'il fallait comprendre et étudier, dont il fallait déterminer le mécanisme interne. Comme moteur ultime de l'évolution des sociétés, Hegel, reprenant un peu les idées des Lumières, voyait la raison, et plus précisément l'idée de raison. L'histoire des sociétés reflétait, selon lui, l'évolution de l'idée de raison dans l'esprit des hommes. Cette vision idéaliste, abstraite, qui mettait une idée abstraite au cœur du processus de toute l'histoire de l'humanité, pouvait sembler être un retour en arrière par rapport aux matérialistes du XVIIIe siècle. Mais c'est à partir de cette conception philosophique que le matérialisme put évoluer et prendre une forme plus aboutie. C'est à Marx qu'on doit cette étape dans l'histoire des idées matérialistes. C'est lui qui reprit la dialectique de Hegel et lui donna une base matérialiste. Selon Marx, la dialectique des idées n'était que le reflet dans le cerveau humain de la dialectique du monde réel. Comme il le disait lui-même, chez Hegel, la dialectique marche sur la tête. Il suffit de la remettre sur ses pieds. En appliquant le raisonnement à la fois dialectique et matérialiste à l'évolution des sociétés, Marx mit en évidence que l'histoire des sociétés était l'histoire des luttes entre classes sociales et que ces classes sociales plongeaient leurs racines dans l'organisation économique. Voilà alors comment s'expliquait à très grands traits l'histoire des derniers siècles. La bourgeoisie s'était d'abord développée dans les interstices de la société féodale, avec l'essor du commerce. Tout progrès économique, élargissant les échanges, et au bout du compte, élargissait les échanges, et au bout du compte, contribuait à renforcer la bourgeoisie. Il devenait alors inévitable que cette bourgeoisie prenne la direction de la société. Mais il n'y avait aucune raison de penser que l'histoire devait s'arrêter là. Dès sa naissance, la bourgeoisie était flanquée de son contraire. Les capitalistes ne peuvent pas exister sans les salariés. Alors que le bourgeois du Moyen-Âge devenait le capitaliste industriel, le petit peuple des villes, les compagnons des corporations, devenaient les ouvriers d'usine, les prolétaires modernes. Et la nouvelle opposition entre classes était celle entre la bourgeoisie et le prolétariat. Quand Marx établit son raisonnement, la classe ouvrière était nombreuse qu'en Angleterre. Les luttes de cette jeune classe sociale étaient déjà des exemples époustouflants. Mais la généralisation de Marx à l'ensemble de l'Europe et même au monde était à l'époque une anticipation géniale. Cette vision matérialiste de l'histoire portait en elle un aspect révolutionnaire. Car si ce sont les luttes de classe qui sont le moteur de l'histoire, alors il ne s'agit plus pour les philosophes matérialistes de simplement observer et critiquer pour aider au progrès. Il faut prendre part à cette lutte des classes. Il faut agir. Comme disait Marx, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, mais ce qui importe, c'est de le transformer. Accepter les conclusions de ce matérialisme historique, cela signifiait, et signifie toujours d'ailleurs, lutter contre la société capitaliste. Et c'est pour cela que les idées matérialistes ont été associées à la classe ouvrière et à ses idées d'émancipation, et donc au communisme moderne. Le matérialisme donnait d'ailleurs une vision totalement transformée de ces idées communistes. Le communisme qui existait avant Marx était hérité des premières luttes ouvrières et même des premières luttes du petit peuple des villes du Moyen-Âge. Teinté de religiosité, il vantait un communisme de la répartition, une égalité du partage. Il ne s'opposait pas au problème de la production des richesses. Avec le marxisme, le communisme prit sa place dans l'évolution des sociétés comme l'organisation économique qui doit remplacer le capitalisme, en débarrassant la société des contradictions de celui-ci. Le communisme ne se résumait plus au simple partage des richesses, mais revendiquait la collectivisation des moyens de production pour utiliser la haute productivité de l'économie capitaliste et supprimer l'anarchie due à la concurrence capitaliste. Le progrès de l'industrie fit surgir partout en Europe, puis partout dans le monde, des bataillons de travailleurs. La classe ouvrière montra alors qu'elle était une classe sociale combative et capable de lutter pour le pouvoir, validant le matérialisme de Marx. Marx se battit pour que le mouvement ouvrier s'empare. Pour que le mouvement ouvrier s'empare des conceptions matérialistes, pour qu'elles deviennent l'arme idéologique des travailleurs conscients. Il était essentiel que les militants ouvriers se débarrassent des vieilles conceptions teintées de religiosité et qui pouvaient véhiculer des préjugés passéistes et même parfois réactionnaires. Marx consacra toute sa vie à ce combat. Et alors que dans la bourgeoisie, les conceptions matérialistes refluaient, c'est dans la classe ouvrière qu'on trouvera désormais les athées matérialistes les plus conséquents. Évidemment, les préjugés religieux n'allaient pas pour autant disparaître de la classe ouvrière, car la religion a des racines sociales profondes qui plongent dans la souffrance quotidienne des exploités. Comme le disait Marx lui-même dans un de ses tout premiers textes, il avait alors 25 ans, qu'il écrivait sur la religion, « La détresse religieuse est pour une part l'expression de la détresse réelle et pour une autre part la protestation contre la détresse réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. » La société capitaliste, en favorisant la connaissance et le progrès technique, a fait disparaître certaines sources de la religion. Mais elle en a engendré d'autres. Le capitalisme a développé une économie toujours plus puissante, qui est le produit du travail des hommes. Mais le contrôle de cette économie leur échappe. Et ce qui n'est au bout du compte que le fruit de leur travail collectif leur apparaît comme une puissance extérieure qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne comprennent pas. La religion ne disparaîtra que lorsque l'humanité aura enfin pris les rênes de son destin en main, c'est-à-dire quand la classe ouvrière aura écarté la bourgeoisie et supprimé l'anarchie qui règne dans l'économie. Ce constat a été la ligne de conduite du mouvement ouvrier marxiste par rapport à la religion. Les militants marxistes ont toujours lutté activement pour diffuser les conceptions matérialistes et athées, tout comme ils ont toujours su que toute une partie des travailleurs, en dehors des périodes révolutionnaires, ne pouvait échapper au poids des superstitions religieuses. Et cela n'était et n'est absolument pas contradictoire avec le fait de considérer que la classe ouvrière, dans son ensemble, est la seule force capable de renverser le capitalisme et d'émanciper la société. Le mouvement ouvrier s'est battu pour la liberté de culte, c'est-à-dire la liberté de pouvoir croire en la religion de son choix, ou évidemment de ne pas croire et d'être athée. Il s'est battu pour la séparation de l'Église et de l'État, pour que ce soit à la charge des croyants de faire vivre leur propre culte. D'ailleurs, rappelons que les révolutionnaires anglais, bien que religieux et puritains, étaient déjà pour la séparation de l'Église et de l'État. Pour eux, il s'agissait de liberté religieuse. Pour le mouvement ouvrier, il s'agit toujours, en plus de cette liberté, de se battre pour empêcher qu'un appareil religieux impose sa propagande avec le poids de l'État, entre autres en ayant dans ses mains l'éducation de la jeunesse. La commune de Paris de 1871, ce premier État de la classe ouvrière, décréta la séparation de l'Église et de l'État et supprima tous les budgets publics des cultes. Mais cette première expérience d'une société dirigée par les travailleurs ne dura qu'à peine 2 mois et demi. Et il fallut attendre presque 35 ans pour qu'il se trouve des politiciens bourgeois républicains pour imposer en France la séparation de l'Église et de l'État. Cette séparation fut réalisée par la loi de 1905 qui retira à l'Église catholique une partie du poids qu'elle avait sur la société française. Le concordat, mis en place par Napoléon en 1801, fut aboli. Et les religieux ne furent plus rétribués par l'argent public. Cette loi a indéniablement profité aux travailleurs. Mais elle était le fruit de la bagarre entre tendances politiques bourgeoises rivales, l'une catholique et monarchiste, l'autre laïque et républicaine. Et dans cette lutte, le parti radical, qui représentait ces républicains laïcs, cherchait à écarter des concurrents et pas à émanciper le peuple. L'école laïque, gratuite et obligatoire de 6 à 12 ans, qu'il mit en place pour concurrencer l'Église, était aussi, à sa manière, un appareil de propagande. De propagande anti-religieuse, et c'était une bonne chose, mais aussi de propagande nationaliste et bourgeoise. Et puis, une fois l'Église catholique française soumise, les mêmes républicains surent la traiter avec ménagement. D'abord en reculant sur la réelle séparation de l'Église et de l'État, car la loi de 1905 stipula que les édifices religieux restaient à la disposition de l'Église catholique, mais que c'était à l'État de les entretenir. Ensuite, parce que cette loi représenta le sommet de leur lutte anti-religieuse. À partir de là, ils ne firent que concession sur concession à l'Église. La plus notable fut qu'en Alsace et en Lorraine, deux régions qui étaient allemandes au moment de la loi de 1905 et qui redevinrent françaises après la Première Guerre mondiale, les religieux continuèrent à être payés par l'État. Depuis, aucun gouvernement n'a voulu étendre à ces régions la loi de 1905. L'anticléricalisme bourgeois français, en tant que courant politique, non seulement fut limité dans ses objectifs, mais en plus il ne dura qu'un temps. Et ce fut pourtant un des plus vigoureux. Le mouvement ouvrier révolutionnaire fut en réalité le seul courant politique matérialiste international. Le courant socialiste d'avant 1914 répandit largement les idées matérialistes chez les travailleurs de nombreux pays. Mais c'est en Russie, dans un pays où l'Église orthodoxe était religion d'État, et où les révolutionnaires réussirent à prendre le pouvoir en 1917, que l'expérience est la plus riche. En Russie tsariste, c'était évidemment dans les campagnes que le poids de l'Église était le plus fort. Les communistes russes avaient bien sûr dans leur programme la séparation de l'Église et de l'État et la liberté des cultes. Dans une petite brochure de 1903, en direction de la paysannerie, Lénine écrivait « Les social-démocrates, c'est-à-dire les communistes, réclame pour chacun le droit de professer en toute liberté la religion qui lui plaît. Il faut que chacun ait pleine liberté, non seulement d'embrasser la religion qu'il veut, mais aussi de propager n'importe quelle religion et de changer de religion. Il ne doit y avoir ni religion dominante, ni église dominante. Toutes les croyances religieuses et toutes les églises doivent être égales devant la loi. » À côté de cette position, net pour la liberté de culte, les communistes étaient, eux, des matérialistes athées militants. Dans un autre article sur la religion, le même Lénine écrivait « Pour ce qui est du parti du prolétariat socialiste, la religion n'est pas une affaire privée. Notre parti est une association de militants conscients, de combattants d'avant-garde pour l'émancipation de la classe ouvrière. Cette association ne peut pas et ne doit pas rester indifférente à l'inconscience, à l'ignorance ou au sombre fanatisme sous la forme de croyances religieuses. » Mais contrairement aux anticléricaux bourgeois français, la lutte contre les conceptions religieuses ne se faisait pas uniquement par de la propagande athée. Cette propagande devait se soumettre à la tâche fondamentale, à savoir le développement de la lutte des classes, des exploités contre les exploiteurs. Prenons l'exemple d'une grève. Dans le même article, Lénine continuait. Un marxiste est forcément tenu de placer le succès du mouvement gréviste au premier plan, de réagir résolument contre la division des ouvriers dans cette lutte en athées et chrétiens, de combattre résolument cette division. Dans ces circonstances, la propagande athée peut s'avérer superflue et nuisible, non pas du point de vue sentimental, par crainte d'effaroucher les couches retardataires, de perdre un mandat aux élections, etc., mais du point de vue du progrès réel de la lutte de classe, qui, dans les conditions de la société capitaliste moderne, amènera les ouvriers chrétiens à la social-démocratie et à l'athéisme 100 fois mieux qu'un sermon athée tout court. Quand la révolution russe porta au pouvoir les communistes, ils tinrent leurs promesses. En janvier 1918, un décret simple, rédigé par Lénine lui-même, annonça que l'Église est séparée de l'État et l'école est séparée de l'Église. Les biens des organisations religieuses furent proclamés propriété d'État, mais les associations religieuses purent gratuitement utiliser des édifices pour les cultes, à condition d'entretenir ces édifices. Sous le feu des événements, le recul des préjugés religieux se fit de lui-même. La guerre mondiale, la révolution d'octobre, puis la guerre civile. Tous ces événements contribuèrent en eux-mêmes à faire que des millions de travailleurs et de paysans se débarrassent de leurs sentiments religieux. Pendant les toutes premières années du régime, il n'y eut même pas, par exemple, de revue spécifique de propagande athée. En 1922, c'est-à-dire presque 5 ans après la prise du pouvoir, à l'occasion du lancement d'une des premières revues de propagande matérialiste, Lénine reconnaissait que le régime n'avait pas encore, à notre honte, disait-il, traduit la littérature matérialiste athée du XVIIIe siècle, à laquelle il attachait beaucoup d'importance. Ce n'est que dans un deuxième temps que le pouvoir, à la tête de la société soviétique, société qui conservait quantité d'arriérations héritées du tsarisme, chercha non seulement à combattre les préjugés religieux par de la propagande matérialiste, mais au moins autant à transformer le quotidien de la population. Voilà ce que mettait en avant Trotsky dans un article en 1925. Des salles à manger publiques et des crèches peuvent affecter la conscience de la ménagère d'un stimulus révolutionnaire, ainsi qu'énormément accélérer son évolution vers le rejet de la religion. Les méthodes chimiques utilisées par l'aviation pour détruire les sauterelles peuvent jouer le même rôle vis-à-vis des paysans. Le simple fait pour le travailleur et la travailleuse de participer à la vie d'un club en les extirpant de la petite cage familiale avec son icône et son cierge ouvre l'une des voies vers la libération des préjugés religieux. Trotsky comptait aussi beaucoup sur les salles de cinéma pour faire concurrence aux églises. Évidemment, à aucun moment, les communistes russes n'ont pensé qu'ils se débarrasseraient définitivement des préjugés religieux dans leur coin, dans cette Russie qui gardait les traces profondes de son arriération, isolée d'un renversement général de la société capitaliste. Ils faisaient au mieux, avec les moyens qu'ils avaient. Cela dit, force est de constater qu'en Russie soviétique, pendant plusieurs dizaines d'années, la religion s'estompa considérablement. Alors, aujourd'hui, les choses ont nettement reculé, dans l'ex-URSS et partout dans le monde. Ce recul des idées matérialistes s'inscrit dans un reflux général de la société. Même si la technologie continue de progresser, la société s'enlise dans un bourbier d'idées crasseuses, dépassées, que les découvertes de la pensée humaine avaient déjà depuis longtemps démystifiées. Car en l'absence de perspectives nouvelles, que seul un mouvement ouvrier conscient peut porter, ce sont ces idées du passé, plus ou moins remises au goût du jour, qui dominent. Tout cela est le reflet idéologique que la société capitaliste n'a plus d'avenir à proposer à l'humanité, si ce n'est la barbarie. Face à ce recul, nous défendons les raisonnements matérialistes de Marx et les transmettons à tous ceux qui veulent comprendre cette société et qui veulent la combattre. Par ailleurs, aujourd'hui, derrière le drapeau de la religion, se trouve parfois plus que la simple croyance en Dieu. Il se trouve des courants politiques réactionnaires, comme ces fondamentalistes protestants aux États-Unis ou catholiques en France, qui peuvent faire le coup de poing contre les femmes qui veulent avorter ou contre les médecins qui pratiquent les avortements. C'est le cas aussi des intégristes juifs en Israël, qui veulent interdire toute circulation le samedi. Et c'est le cas des intégristes musulmans qui veulent imposer le voile islamique aux femmes. Toutes ces interventions ne sont en plus que les premiers actes d'une politique qui vise à imposer une dictature sur les pensées avant d'imposer une dictature tout court. La religion n'est qu'un masque pour ces courants politiques qui sont des adversaires des travailleurs et représentent un danger mortel, y compris et même surtout pour ceux qui se revendiquent de la même confession. Il serait criminel pour une organisation révolutionnaire communiste de ne pas mettre en garde contre ce danger et de ne pas préparer les travailleurs à l'affronter. Pour revenir à la religion, nous savons que les progrès scientifiques, les découvertes, ne feront pas disparaître les croyances dans une société où l'immense majorité est opprimée et où l'économie capitaliste ressemble à une puissance surnaturelle indomptable. Face à l'exploitation, les pauvres d'aujourd'hui se sentent aussi impuissants que les pauvres de l'Empire romain face à leur oppression. Et c'est pour cela d'ailleurs que tous ces monothéismes juifs, chrétiens, musulmans, qui datent de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires, représentent toujours quelque chose pour des centaines de millions, voire des milliards d'exploités à travers le monde. Mais il y a une différence essentielle. Les ouvriers d'aujourd'hui ne sont pas comme les esclaves de l'Empire romain. À l'époque, l'horizon était bel et bien bouché. L'Empire ne pouvait que s'effondrer et la société attendre de se régénérer pour repartir sur d'autres bases. Aujourd'hui, les conditions objectives existent pour que la production soit organisée en fonction des besoins de tous et sur une base internationale. Les progrès de la science, des techniques, de la production, l'internationalisation croissante des échanges, tout cela va dans ce sens. Et pour que cette possibilité objective se réalise, pour que le rationnel devienne réel, comme aurait pu dire Hegel, il faut que la classe ouvrière prenne les rênes de la société en main. Et au-delà des préjugés religieux, c'est la conscience de ce rôle historique qui peut être la base de l'unité du prolétariat. Et ce sera alors aux travailleurs communistes d'entraîner les autres, qui, lorsque l'explosion sociale arrivera, chercheront des programmes et des idées.